Je suis Younes Algarty, Managing Director d'Avisio Mentoring, la solution d'accompagnement personnalisée par les meilleurs managers de la tech. Dans Lieutenant, j'ai décidé de mettre en lumière les premiers employés des grosses startups et scale-up qui cartonnent aujourd'hui et jouent un rôle clé dans l'ombre des fondateurs. Tous les 15 jours, je leur donne le micro pour vous offrir leur version opérationnelle et concrète de l'histoire. Ils vont nous dire quels outils, méthodes et erreurs ils rencontrent sur le chemin du succès. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Salut Gaëlle!
Salut Younes!
Gaëlle, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Toi et moi, on se connaît depuis longtemps. On s'est rencontrés sur les bancs d'une super école de vente, Groupon.
Ouais.
T'es passé ensuite par Doctolib, par Wonderbox. Et t'es maintenant chez Indie.
C'est ça.
Donc on va parler de ça, de comment t'as construit la vente chez Indie. Et tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui, complètement. Je suis ravie aussi, du coup, d'être avec toi. Du coup, je me présente, je m'appelle Gaëlle, j'ai 39 ans. J'ai commencé en effet par une super école qui s'appelle Groupon, qui nous a permis à l'époque de pouvoir démarrer avec un modèle complètement novateur et même peut-être assez choquant pour certains, et qui nous a permis du coup de faire nos armes et de comprendre comment vendre, même dans des situations hyper compliquées. Assez rapidement, en fait, j'ai évolué sur des fonctions managériales chez Groupon, du coup, au bout de 2 ans. Puis après, chez Doctolib, à son démarrage, je faisais partie des premières équipes commerciales recrutées. Ensuite, chez Wonderbox, où il a fallu, du coup, remanier une équipe commerciale et qu'on a fait grandir au fur et à mesure. Et aujourd'hui, chez Indie, depuis 3 ans.
Top. Alors, raconte-nous déjà comment ça se passe au tout début quand tu commences chez Indie.
Alors, au tout début, je quitte Paris pour Indie. Donc déjà, dépaysement total. Et je suis toute seule, en fait, à faire de la vente. À l'époque, le produit se vend très bien, mais tout seul, via du coup, des actions marketing. On compte, en fait, sur le fait que nos prospects s'abonnent en toute autonomie. Et on se dit qu'on va tester, en fait, un modèle un peu plus pushy. Avec une force commerciale outbound pour aller chercher des prospects qui ne nous connaissent pas forcément. Et donc, après du coup 2 ans en tant que manager chez Wonderbox, je reprends mon téléphone pour appeler des prospects et pour essayer de comprendre du coup comment je peux vendre ce produit qu'ils ne connaissent pas du tout. Et voilà, c'est un redémarrage à zéro, c'est hyper excitant parce que du coup c'est à nouveau un nouveau produit qui change un peu les codes, qui est complètement novateur et qui vient bousculer du coup ce qui existe sur le marché à ce moment-là. Donc juste pour rappel, Indie, c'est on automatise la comptabilité des indépendants en France, mais de manière beaucoup plus fun que les comptables. Et donc c'est ça qui est excitant, en fait, c'est de venir montrer qu'il y a une autre manière de faire quelque chose qui n'est pas très drôle. Et du coup, ça prend assez vite et assez bien, en fait.
Et alors, finalement, ce que tu nous dis, c'est que vous rentrez pas tout de suite dans le cliché de « je recrute une directrice commerciale, donc elle recrute une armée de commerciaux », tu commences d'abord par vendre. Est-ce que tu le vois comme une petite régression nécessaire pour le métier, ou est-ce que vraiment tu retrouves un peu le goût de la vente à ce moment-là?
Alors, le goût de la vente, je l'ai jamais perdu. Du coup, en effet, quand on me propose le job à l'époque, on me dit, enfin, je prends un risque assez important puisqu'on me dit, il faut qu'on prouve que ça marche, mais finalement, on n'en est pas sûr et on ne sait pas comment le vendre. Donc, les fondateurs avaient commencé à essayer, mais du coup, c'est pas quelque chose qui avait du tout été poussé. Et donc, moi, c'est ce que j'aime, en fait. C'est du coup pouvoir moi me frotter aux produits, aux prospects, avant de recruter et de former du coup des commerciaux derrière. C'est ce qui me permet aussi d'avoir une vraie connaissance du terrain et du coup des attentes des prospects. Donc non, au contraire, moi j'adore. J'ai souvent fait ça, en fait. Doctolib, c'était pareil, Groupon, c'était pareil. À chaque fois, c'est un redémarrage à zéro en tant que sales, mais canon après pour former par la suite, quoi.
Et ça dure combien de temps, cette période où tu es la seule commerciale de la boîte, avant que tu recrutes?
Ça dure 4 mois.
4 mois. Et comment tu fais pour recruter les premiers clients? Tu les sources où? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu vas les voir? Ça marche comment?
Parmi les indépendants, du coup, on compte des médecins, des paramédicaux. Du coup, c'est un peu mon univers en sortant de Doctolib. Enfin, je me rends compte assez vite que chez Indie, la cible, ce sont beaucoup de paramédicaux. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je commence à contacter du coup des personnes dans ce milieu-là. Je tâtonne un peu au début, j'appelle des clients aussi qui sont abonnés par eux-mêmes. Et j'essaye d'aller chercher en fait tous les points positifs que leur apporte du coup l'outil. Je me forge un peu une carapace, j'en prends plein du coup, un peu plein mon ego de nouvellement arrivé chez Indy. Et là, je commence à me faire un peu un argumentaire. Et moi qui ne connais pas grand-chose à la comptabilité à ce moment-là, je tombe dedans. Enfin, j'y vais quoi. Je me pose pas de questions et j'y vais.
Donc tu prends les pages jaunes et t'appelles pendant 4 mois des médecins.
Ouais, au début, on n'a pas forcément en effet identifié, enfin, on n'avait pas forcément de listing qualifié dans un CRM. Donc ouais, on prend une base comme ça un peu en se disant c'est un peu notre cible historique depuis le départ. Donc ils ne nous connaissent pas encore massivement, mais on va plutôt partir sur eux. Donc à l'époque, c'est des kinésithérapeutes pour être plus précis. Et ouais, j'y vais du coup, quel que soit leur localisation géographique, leur âge, leur année de lancement, j'y vais tête baissée en essayant de me frotter un peu à ces premiers retours.
Et à quel moment vous vous dites ça y est, c'est bon, on a prouvé que ça marche, Gaëlle, tu vas monter une équipe?
Alors on s'était dit que si on arrivait à signer 10 professionnels par semaine, par personne, bon, j'étais toute seule donc ouais. 10 par semaine de mon côté, du coup on serait pas mal. Et du coup ça nous permettait en fait d'atteindre une cadence qui nous convenait côté CAC, côté du coup nous les KPI un peu qu'on se fixait et c'est ce que j'ai gardé en fait en tête. Et à partir du moment où sur plusieurs semaines j'ai pu répliquer le modèle, je me suis dit qu'en fait on tenait un truc. Et là en fait à partir du moment où je pouvais le répliquer sur plusieurs semaines sur la durée, du coup c'était possible de l'industrialiser à une équipe au complet. Et c'est là où du coup commence un peu cette aventure de recrutement et de coach commercial dans un premier temps, parce qu'on peut pas dire plus quand on accueille 3 personnes. Et c'est ce qui se passe du coup dès janvier 2019.
Ok, donc en janvier 2019, t'accueilles tes premiers commerciaux.
C'est ça.
Ça fait combien de temps que t'es arrivé chez Indy?
Je suis arrivée en septembre 2018.
Ok, 4 mois, tu recrutes déjà ton premier batch de 3 commerciaux. Toi, t'arrives à un rythme de 10 signatures par semaine.
Ouais.
Ça fait 2 par jour, c'est quand même pas mal.
Quand ouais,
on fait
c'est intense.
Tout le cycle de vente pour soi, c'est pas mal. Combien de temps ils mettent tes commerciaux pour arriver à ce niveau-là de performance? Parce que du coup, c'est ce que vous attendez de tout le monde.
Complètement. En fait, moi, c'est ce que j'attendais du coup en retour direct après leur recrutement. Sauf que du coup, je ne me rends pas compte qu'en fait, moi, je joue vachement sur ma carte, sur la carte Doctolib. On a les mêmes investisseurs historiques. Et donc, en fait, j'ai un intuitu qui est forcément plus fort que des commerciaux qui arrivent et qui ne sont pas dans ce milieu-là, qui ne connaissent pas cette cible et qui ont moins d'appétence du coup pour briser la glace de cette manière-là. Et au début, les débuts sont compliqués, sachant qu'en plus on se lance un peu à ce moment-là en course pour la Série A et du coup on a besoin de montrer qu'on est capable de répliquer le modèle au niveau de l'équipe commerciale au global. Donc on s'est entraîné, on s'est vachement entraîné. Le but c'était de comprendre les forces de chacun. Les approches ont été finalement très différentes. Moi qui pensais en fait qu'on avait un pitch, une manière de faire, qu'on allait dérouler et que tout le monde allait être dans le même moule, là je me retrouve confrontée avec 3 personnalités totalement différentes qui travaillent pas du tout de la même manière et qui à un moment donné réussissent à trouver leur vitesse de croisière. Et je me rends compte que même assez rapidement ils me dépassent quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent à te dépasser justement?
Parce qu'ils sont super forts, parce qu'on a fait un super recrutement.
Évidemment.
Et parce que, en fait, ils ont un regard totalement nouveau finalement. Alors sur le produit comme moi, parce que moi, j'étais pas du tout dans la comptabilité avant, mais aussi sur la cible. Et ils ont des manières finalement de l'approcher qui fonctionnent quoi. Et on se rend compte qu'à 4, on est bien meilleur que tout seul dans son coin. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à aller encore plus loin. Dans ce que je faisais moi toute seule au début avec ma tambouille quoi.
Et toi à ce moment-là, comment tu répartis ton temps entre le coaching de l'équipe, j'imagine la mise en place un peu d'opérations commerciales et peut-être encore ton propre portefeuille de prospects?
Ouais, assez rapidement du coup je suis obligée d'abandonner moi mon portefeuille de prospects parce que en même temps j'ai des missions sales ops qui font que on doit commencer à écrire l'histoire de cette équipe commerciale et donc on doit commencer aussi à à rédiger un contenu hyper clair de formation, de, enfin voilà, on doit mettre nos process à plat. À 4, on commence à avoir des process, à commencer à avoir des process et à devoir les respecter entre nous. Donc en gros, je suis sur une grosse partie coaching dans les premières semaines et petit à petit, en fait, je commence à prendre d'autres casquettes au sein de l'équipe.
Alors cette partie coaching, elle se passe comment ? C'est combien de temps dans ta semaine ? Quel genre d'atelier c'est ? Comment tu gères ça ?
Au début, c'est en continu parce qu'en fait, les trois personnes n'arrivent pas au même moment, si c'est pas drôle. Donc il y a en fait de la formation du coup théorique parce que le domaine de la comptabilité, ça s'improvise pas. Il y a des règles à connaître, il y a un vocabulaire à manier. Il faut qu'on montre quand même une certaine légitimité pour leur vendre après le fait de nous faire leur comptabilité à leur place. Et donc ça, c'est de la formation vraiment théorique que j'enchaîne en fait parce que trois recrutements qui arrivent à trois moments différents. Donc je vais l'enchaîner jusqu'à mi-février à temps plein. Et puis en même temps, je les accompagne sur la partie pratique, sur les premiers calls, sur du coup les premières démos. En gros, le process aujourd'hui chez Indie, mais qui était celui-là à l'époque aussi, c'est qu'on a une prise de contact en prospection, on fait beaucoup de volume pour essayer de les contacter, tous ces prospects. Et puis ensuite, quand on les a et quand on arrive à les pitcher, on essaye d'arriver très rapidement à un rendez-vous de démonstration d'une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, où là, du coup, on va commencer à faire leur comptabilité, c'est là où on vend. Et donc du coup, en fait, pendant tous ces moments-là, j'étais avec eux, à leur côté. Alors moi, j'avais 4 mois d'ancienneté par rapport à eux. Donc, j'étais pas non plus hyper calée sur tous ces sujets-là. Mais pour autant, eux qui venaient de démarrer, ils comptaient sur moi pour leur souffler un peu les réponses quand on butait. Et du coup, en permanence, en fait, en coaching, en one-one avec chacun d'entre eux. Donc au début, c'était vraiment un temps plein.
Ok.
Mais après, ils se sont montrés vraiment super forts très rapidement. Puis à force de faire du volume et d'avoir des échanges avec les uns les autres, on apprend énormément aussi. Et ils sont du coup devenus vite autonomes hein, sur toute la partie, en tout cas, approche, démo et tout. Ça a été assez fou, la montée en puissance de cette équipe.
Et alors, tu disais tout à l'heure que dans tes multiples casquettes, il y avait aussi le fait d'écrire les process, mm-hmm. de séquencer complètement le process de vente et de le rédiger. Ça vient dans quel ordre, ces étapes-là ? Comment tu t'y prends ?
Je pense que dans un premier temps, tu essayes d'avoir des outils qui fonctionnent et qui peuvent du coup te faire gagner du temps. On a eu pas mal de galères au niveau du CRM, où on a quand même changé, si mes souvenirs sont bons, 5 fois de CRM, avant de trouver du coup celui qui nous convenait le plus. Donc ça allait, puisqu'à l'époque, on était une petite équipe, donc on pouvait se permettre de le faire. Et puis une fois qu'on a le bon CRM, qu'on comprend bien comment il fonctionne et qu'il réussit un peu à challenger notre cadence et notre rythme, c'est là où on commence à écrire les règles, à comprendre comment on doit fonctionner entre nous pour pas se marcher dessus et pour faire en sorte de faire monter l'information comme il faut. Assez vite aussi est venue l'idée d'écrire une formation, un contenu de formation en ligne. Parce qu'on savait en fait que si on réussissait tous les quatre à finalement vendre comme on le voulait et à avoir les résultats qu'on souhaitait, on allait très très vite grossir. Et du coup, ces trois premiers recrutements, la promesse c'était aussi d'être les piliers de l'équipe commerciale derrière. Et donc, ils m'ont vachement accompagnée justement dans la rédaction du contenu, le fait de pouvoir commencer à avoir un vrai savoir-faire du coup en ligne.
Tu parlais du choix du CRM tout à l'heure et du fait que vous en avez fait 5 avant de rester fidèle au dernier. Je me souviens qu'on avait eu une discussion notamment sur Pipedrive à une époque où moi je commençais à l'utiliser dans la boîte que j'avais intégrée et où vous étiez aussi là-dessus. Et je sais aussi que c'est un choix, le CRM qui hante un peu tous les directeurs commerciaux qui se lancent sur ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais nous dire, en gros, les deux CRM les plus marquants que vous ayez eus et pourquoi il y a eu besoin d'un changement ?
Carrément. On est toujours sur Pipedrive.
Okay.
Aujourd'hui, c'est celui qui nous correspond le mieux parce qu'on a un cycle de vente qui est assez simple. Et comme on fait beaucoup de volume, on a besoin en fait, d'être hyper organisé dans nos tâches au quotidien. Alors, Salesforce pourrait nous permettre de l'être, mais... En fait, on a besoin aussi, nous, de maîtriser un peu notre CRM, d'avoir une main dessus. Et on a à un moment essayé Salesforce, mais ça a été hyper compliqué au niveau de l'architecture. On s'est perdu alors qu'on avait un modèle tellement simple qu'on s'est dit que finalement, on se compliquait la vie pour rien. On a fait un passage assez marqué sur Zo. Ça m'a marqué, mais pas dans le bon sens du terme. Ça a été assez laborieux en fait. Et on avait démarré à la base par HubSpot, qui était un super bon CRM, je pense, avec quand on avait des actions market dessus, mais qui une fois appliqué seulement au sales est moins pertinent en fait qu'un Pipe Drive aujourd'hui.
Ok.
Je t'ai fait le tour de tous les CRM en fait.
Ben, je pense que ça va beaucoup intéresser les directeurs commerciaux et les sales ops qui nous regardent, qui nous écoutent plutôt. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que contrairement à beaucoup de boîtes qui font le choix a posteriori, une fois qu'ils ont beaucoup grandi, de passer sur Salesforce à la fin, vous faites le choix inverse et vous tenez ce cap-là, alors qu'aujourd'hui vous avez une très grosse équipe commerciale et que vous êtes toujours sur Pipe Drive. Quoi que disent les gens qui disent que Pipedrive a ses limites assez vite quand tu as une quinzaine de sales et qu'il faut passer à plus fort, quoi.
Ouais, complètement. On nous l'a dit en effet quand on a passé un certain stade. Et en fait, on n'a pas. Alors, on voit des limites, mais pour l'instant, ça va. On gère avec et on est très bien sur Pipedrive.
Si je reviens un petit peu sur ton orga à toi et ton job, on a parlé du moment où tu étais sales, du moment où tu étais la coach de 3 personnes. Mm-hmm. Donc, team lead en gros. À quel moment est-ce que tu switches vers un job de directrice commerciale?
Ouais, je pense que c'est à partir du moment où l'équipe devient plus importante en nombre et du coup je mets en place des coachs et des managers. Et là je me dis qu'en effet je peux plus être en direct avec chacun d'entre eux, je peux plus les coacher au quotidien, je peux plus être sur une partie purement opérationnelle avec chacun d'entre eux. Et là du coup je passe sur un autre job pour moi. C'est plus du tout le même, quoi.
Elle ressemble à quoi, l'organisation? C'est toi, des managers et les sales?
Ouais.
Ou non. Est-ce qu'il y a du coaching au milieu? Comment tu l'as?
Ouais. Alors, je te présente du coup l'orga d'aujourd'hui. Donc, je vous disais qu'en septembre 2018, j'étais toute seule. Aujourd'hui, on est 49 dans l'équipe.
Sales, hein? Pas sales, tout indie, sales.
Ah oui, on est 163 indies aujourd'hui, dont 49 sales. On a dû beaucoup se structurer pour réussir en fait à finalement continuer d'avancer au même rythme et en gardant beaucoup de proximité entre nous et faire en sorte que du coup personne se sente délaissé sur le côté. Et donc l'orga d'aujourd'hui, c'est en effet il y a des coachs qui ont des équipes de 4, 5, 6 personnes en direct et qui continuent d'avoir un objectif opérationnel eux aussi pour vraiment comprendre en fait ce qui se passe sur le terrain au quotidien. Puis ensuite il y a des managers qui vont gérer 2-3 coachs en direct et qui vont les aider du coup à piloter les équipes et qui vont les piloter en direct sur tout ce qui est pilotage d'objectifs, mise en place de challenges, etc. Puis sur la partie RH. Et puis après, il y a moi. Et en transverse, on a une équipe qui s'appelle la Sales Excellence, qui est une équipe en fait de coachs formateurs. Les coachs formateurs, ils vont s'occuper à chaque fois des nouvelles promos, c'est-à-dire toutes les nouvelles promotions sales qui nous rejoignent vont... Alors moi, je dis la chance parce que je trouve que c'est canon de pouvoir avoir 2-3 mois avec eux où ils vont être dans un espèce de cocon, où ils vont être coachés de manière ultra proche. Ils vont avoir des retours sur ce qu'ils font au quotidien pour progresser le plus rapidement possible et être autonome. Et parmi ces coachs formateurs, on en a aussi qui sont dédiés aux équipes sales en place depuis longtemps ou pas et qui vont du coup aider des sales qui pourraient être en difficulté sur un point ou un autre soudainement ou alors qui ont du mal à craquer un nouveau discours, une nouvelle approche qu'on tente et qui du coup vont se tenir un peu au service de toute l'équipe au global en support de leur coach opérationnel et de leur manager.
Je suis pas sûr d'avoir déjà vu une boîte comme ça qui intègre dans le onboarding de ses commerciaux un parcours aussi long que 3 mois avec une équipe vraiment dédiée à la formation pour un accompagnement hyper quotidien. Tu as commencé à quel moment de la structuration de ton équipe à faire ça?
J'ai commencé à partir du moment où on était une vingtaine, où du coup, c'est moi qui m'occupais de la formation. En fait, je continue à m'occuper de la formation et je me rendais compte que quand on les lançait, des fois, il manquait un peu de personnalisation dans nos approches. Et pour autant, on faisait vraiment des efforts pour leur donner du temps. Et du coup, ils se retrouvaient dans des équipes avec des coachs. Alors au début, on faisait des équipes en binôme. On mettait toujours un senior avec un nouveau qui venait d'arriver. Mais comme les deux étaient objectivés et partageaient en plus le même objectif et le même variable, des fois ça marchait pas très bien, même si je pense que le modèle était vraiment ultra sain jusqu'à 10 personnes. En fait, je me suis dit, ça manque de personnalisation. Et puis, quand on arrive dans une boîte et quand on a des objectifs qui sont ultra ambitieux, je pense qu'en fait, le fait de se retrouver dans un cocon, ça donne beaucoup de confiance aussi en soi. Il y a beaucoup de bienveillance. Alors, en fait, on leur dit qu'on prend le temps de les accompagner à leur rythme pour qu'au bout de 3 mois, ils soient autonomes et dans leurs objectifs. Et du coup, ça les rassure et finalement, ça les pousse, quoi. Du coup, ils ont envie d'aller, en effet, se frotter à leurs vrais objectifs en sortant de cette sales excellence.
On n'a pas parlé de sales ops. C'est un métier chez vous ou pas encore?
Ouais, ça l'est devenu. Ben, moi, j'en ai assuré un pan pendant un bon moment. Ça a occupé mes dimanches, notamment. Et du coup, bah, plus l'équipe grandit et plus le besoin se fait important. Et clairement, c'est un métier, hein, d'être sales ops, ça va vraiment très loin. Et bah, moi, j'étais hyper limitée, en fait, dans ce que je pouvais faire au quotidien pour l'équipe. Et puis, je me rappelle, j'avais recruté, du coup, une promo, donc une dernière promo. On était 10 à ce moment-là. Et un des commerciaux, du coup, je vais le citer, hein, Valentin, me disait toujours, mais pourquoi on fait ça et pourquoi tu nous demandes ça? Et en fait, mais donne-nous des chiffres, étaye tes propos, essaye de nous donner du contexte. Alors le contexte, il n'y avait pas de problème pour le donner, mais du coup, dès qu'il fallait que je creuse des analyses ou choses comme ça, j'avais pas le temps, quoi, je manquais de temps. Et puis un jour, je dis à Valentin, ben, fais-le. Et c'est comme ça que Valentin a créé le poste de Sales Apps chez nous. Aujourd'hui, ils sont 5 temps plein à bosser avec l'équipe Sales.
5 Sales Ops, ça veut dire qu'ils se répartissent comment les sujets du coup à 5?
Alors aujourd'hui, on a 2 produits, on s'adresse à 2 cibles différentes. On a des missions également toujours R&D qui courent pour essayer d'avoir un marché adressable de plus en plus important, pour essayer d'attaquer des cibles qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, parmi tous ces projets, ben, du coup, ils dispatchent un peu leur mission, sachant qu'on a aussi des personnes qui sont en charge des outils, d'autres plutôt des analyses, des reportings, etc., etc. Donc c'est bien organisé.
Alors, maintenant, je vois bien l'orga que tu as construite. Maintenant, si on parle un peu de toi, ton job a énormément changé sur cette période-là. Il y a eu des périodes sur lesquelles tu travaillais à des niveaux d'organisation qui étaient inférieurs à ce que tu avais connu par le passé, mais aujourd'hui, tu es quand même à une échelle hyper importante de 50 personnes. Comment est-ce qu'on apprend, du coup, à se mettre au niveau d'une directrice d'une équipe de 50 personnes?
Ouais, c'est une bonne question. Je crois qu'en fait, on ne se pose pas trop la question sur le coup de comment on va apprendre parce qu'on est pris dans une espèce de spirale et de course qui fait qu'on va toujours plus loin au fur et à mesure. Et en plus, c'est plutôt chouette parce qu'on célèbre nos victoires finalement tous en grandissant en interne, en prenant des responsabilités en plus. Moi, toutes les premières équipes, du coup, aujourd'hui, ont beaucoup, beaucoup évolué en interne. Et puis, ça continue en fait. Et c'est un peu ce qui nous plaît à tous, c'est de se dire... Ça, du coup, c'est bon, je le maîtrise. Alors, j'en ai pas encore fait le tour parce qu'on n'a pas du coup, le truc de se dire ça, mais en tout cas, on maîtrise et du coup, on est capable d'aller ouvrir un autre sujet, un autre pan de responsabilité. Donc après, je pense que j'ai appris beaucoup sur le tas, aussi beaucoup grâce à l'équipe qui m'a permis de comprendre comment je devais avancer avec eux, pour eux, les fondateurs aussi, les autres équipes qui ont commencé aussi à se structurer au même moment. Et puis, la force du réseau aussi, c'est important. Et je sais qu'à un moment donné, hein, tu peux en témoigner, Younes, j'étais assez active du coup à demander à droite, à gauche, à poser en fait mes problématiques du quotidien et à savoir comment mes pairs du coup faisaient de leur côté. Et ça m'a beaucoup aidée. En fait, ça m'a fait beaucoup prendre de recul et puis finalement tester des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Par moments, je me suis plantée, mais à d'autres, ça m'a vraiment apporté des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, quoi, en temps normal.
Canon. Et alors, si tu devais citer une personne en interne ou en externe, peu importe, mais avec qui tu as le plus appris, tu penserais à qui?
Alors, j'ai appris, je pense, de beaucoup de personnes. Mais je dirais que depuis le départ, que Com est mon mentor et que du coup, on a avancé beaucoup tous les deux. Enfin, moi, j'ai beaucoup avancé grâce à lui. Et ça, c'est depuis le premier jour.
Je connais pas forcément Com.
Le CEO, pardon.
Oui. Non, mais alors, ça, j'allais dire, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à avoir avec toi une posture de mentor?
Il a toujours un regard Alors, il va prendre déjà beaucoup de hauteur sur tous les sujets que je peux lui partager. Et du coup, il va toujours avoir un regard hyper éclairé. Enfin, il va avoir beaucoup avoir de réflexion. En fait, ça va finalement, n'importe quel sujet va le faire travailler, va le faire réfléchir. Et du coup, il va le challenger un peu dans tous les sens. Et c'est assez marrant parce que ça peut se faire en direct. D'ailleurs, devant moi, où je le vois partir d'un côté puis de l'autre. Et en fait, d'un petit sujet, on en a fait un grand sujet. On l'a poussé un peu dans tous les coins, puis on a vu quelle était la meilleure solution pour y arriver, et on l'a fait à deux, en fait. Et ça a été le cas, que ce soit, alors, comme sa casquette aujourd'hui, sa casquette en tout cas au départ, c'était pas forcément le management, par exemple, direct, et pour autant, on l'a fait avec des sujets très management, des sujets très sales, hein, alors que c'est pas sa casquette non plus. On l'a fait avec des sujets aussi d'organisation, de boîte, de projection, de strat, enfin. Et du coup, il a toujours répondu présent et surtout, il a toujours passé du temps, en fait, à vouloir trouver la meilleure solution ensemble. Et ça, c'est important. C'est pas de son côté, pas de mon côté, mais vraiment ensemble.
Et si tu devais retenir un apprentissage de Com, peut-être une phrase qui sort régulièrement et qui est impactante, qu'est-ce que ça serait ?
On va marquer des buts, quel que soit le contexte. Quelles que soient les situations qu'on vive, on va marquer des buts, on y croit et on y va à fond.
L'esprit sales.
Ouais, exactement.
Et toi, de ton côté, envers ton équipe, s'il y a un truc que tu essayes de leur inculquer tout le temps, c'est quoi ?
Se renouveler. Sans cesse, du coup, il y a des choses qu'on a craquées, qu'on a comprises. On sait parfaitement, rondement bien les mener, ça marche. Mais pour autant, ce n'est pas ce qui marchera demain. Et on l'a vu, on vient de traverser et on est encore dedans dans une période ultra compliquée où nous, nos méthodes commerciales ont été complètement bouleversées en fait, par les différents confinements, les déconfinements, tout le contexte. Jamais penser qu'en fait, c'est confortable de rester dans ce qu'on sait faire et toujours avoir une longueur d'avance pour trouver la formule qui marchera mieux demain.
La formule qui marchera mieux demain, accepter ses échecs, célébrer ses succès aussi, tu disais tout à l'heure. Tu as l'air d'avoir ces sujets-là très, très à cœur. Mm-hmm. Du coup, je me demande, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, quelle a été ta plus grosse réussite chez Indie ?
J'ai une équipe de 49 personnes assez canon. Et ça, du coup, je trouve que c'est une belle réussite dans le sens où l'équipe, elle est ouverte, elle a envie d'apprendre, elle est investie. Il y a un super esprit d'équipe. Et ça, c'est pas forcément évident. En fait, moi, c'était ma crainte. Je passais de 0 à 10. Du coup, j'étais en confiance. De 10 à 20, j'étais assez en confiance aussi. Et après, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça peut devenir, du coup, que d'avoir une grosse équipe ? Est-ce que finalement, on va partager les mêmes valeurs et les mêmes envies pour demain ? Et je trouve que ça, on a réussi à faire un truc, mais tous ensemble. Hein. C'est pas ma réussite, c'est vraiment une réussite collective. Hein. C'est d'avoir réussi, en fait, à garder un esprit d'équipe ultra fort et ultra collectif dans l'équipe.
Effectivement, c'est une super réussite. Alors du coup, si on fait l'exercice inverse, ton plus gros fail, ça serait quoi ?
Du coup, plus gros, je ne sais pas, mais en tout cas, forcément, il y en a eu plusieurs chez Indie depuis mon démarrage. Des fois, on se rate un peu, on n'est pas assez réactif, on pourrait avancer plus vite. Et puis, notamment sur cette partie recrutement dont je parlais tout à l'heure, au départ, j'étais toute seule sur le recrutement, on n'avait pas de service TAM, RH. Et donc, les 10 premiers, je les ai faits en direct. Je ne suis pas recruteuse. Et là encore, TAM, c'est un vrai métier. Du coup, on a une super équipe maintenant qui est mise en place. Et merci, quoi. Je revis depuis. Mais du coup, au début, moi, j'y allais vraiment au feeling, quoi. Et évidemment, j'allais valider des choses qui étaient importantes, notamment le contact, l'écoute, toutes les qualités en fait, qu'on cherche chez un sales. Mais c'est vrai que sur certains profils, je suis peut-être allée un peu vite. Et notamment du fait d'un feeling très fort. Et c'était peut-être une prise de risque trop importante, notamment pour l'époque où on commençait tout juste et on avait tout à prouver.
Voilà, c'est sûr, je me souviens quand j'ai commencé à recruter, c'était chez Groupon, j'ai 27-28 ans, et on te présente plein de gens. Et en fait, souvent, quand je faisais un entretien, dans les 30-45 premières secondes, j'arrivais à me dire à peu près, ok, j'ai envie de bosser avec ou pas. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, en fait, recruter, c'est facile. Ou alors, je suis assez fort et j'ai un bon feeling humain, c'est cool. Mais en fait, pas du tout. J'étais juste complètement biaisé. Et quand tu suis la première impression sans la questionner et sans avoir une méthode assez claire pour la challenger, tu te plantes, en fait. Et C'est intéressant parce que toi, tu mets en avant le rôle des TAM pour structurer le recrutement et pour y apporter de la méthode. Alors, c'est quoi la différence entre la GAEL qui est recrutée avant d'avoir une équipe de TAM et la GAEL qui recrute maintenant?
La GAEL, avant les TAM, elle cherchait du coup à bâtir son équipe. Hein, et donc, elle avait besoin vraiment de, d'avoir des gens qui, avec une âme d'entrepreneur qui allait avoir envie de s'investir très, très fort dans cette boîte. Hein. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire. Hein. C'est carrément chouette. Hein. Et puis du coup, bah, les TAM, ils sont venus mettre de l'ordre, comme tu dis, dans tout ça. Moi, j'avais des entretiens qui n'étaient pas du tout... qui n'était pas du tout carré, quoi. Ouais, c'était pas structuré. Je pouvais partir dans tous les sens en fonction de ce qu'on me disait et de ce qu'on me racontait. Donc, quelqu'un qui me partageait une passion était capable d'en parler pendant un moment. Et puis, en fonction de la personnalité de la personne, tu vois, si j'avais quelqu'un d'un peu timide ou quelqu'un, au contraire, de très extraverti, je pouvais partir complètement autrement. J'avais pas du tout les mêmes trames de questions. Les TAM, ben, ils apportent cette chose-là de dire... que si on est en effet organisé et qu'on a la même trame pour tout le monde, on est capable en fait de montrer la différence entre les uns et les autres, qui réussit son entretien et qui ne le réussit pas, alors que moi à l'époque j'étais incapable de le dire. Et en effet, la force aussi d'être entouré de professionnels là-dessus, c'est que, comme tu le dis, des fois on peut avoir tendance à être biaisé finalement dès le démarrage de l'entretien, dès les premières secondes, alors que non, en fait, il faut y aller, il faut continuer, il faut creuser, il faut donner sa chance en fait à tout le monde de pouvoir y aller. Puis t'en as qui y vont tout de suite et d'autres à qui il faut plus de temps. Et on a apporté aussi plus de pratiques, d'exercices. Donc aujourd'hui, quand on part sur un recrutement, quelque part, ben, on est beaucoup plus sûr de nous et on sait en fait qui on accueille derrière. Moi, c'était un peu plus...
Donc, c'est les TAM qui vous donnent cette trame d'entretien, cette structure d'entretien qui fait que tu compares les gens sur la même chose et que la comparaison, elle est saine. Tu as des exemples de questions comme ça qui reviennent dans vos entretiens?
Ouais, on essaye du coup de tester la qualité d'écoute. Donc, on leur pose, je sais pas, par exemple, deux questions en une. Puis, on essaye de voir si du coup... la personne répond finalement bien aux deux questions à la fin de son intervention. On essaye aussi de voir un peu la capacité de résilience, comment la personne réagit en cas d'échec, est-ce qu'elle est capable du coup de faire le point sur ses échecs et ses réussites. On a comme ça des questions qui reviennent tout le temps. Et puis on a des questions qui sont peut-être un peu hyper ouvertes et qui font un peu place à l'imagination et qui peuvent un peu dérouter. Et puis on essaye de tester comme ça la capacité à pouvoir bien réagir, bien rebondir et surtout à ne pas se laisser déstabiliser par des questions un peu bizarres au premier abord.
Ok, trop bien. On a fait un grand tour de ton activité aujourd'hui en tant que directrice commerciale chez Indie. Si on regarde toute la période, est-ce que tu saurais me dire sur quel thème est-ce que tu as grandi le plus?
Bah, le management, complètement. En fait, en effet, piloter une équipe à presque 50 personnes, ça change un manager. On n'a plus là, du tout la même approche. Et après, sur, en fait, j'ai beaucoup pris, en hauteur. J'ai beaucoup appris finalement à me canaliser, à beaucoup réfléchir en amont avant de foncer. Chose qui pouvait me manquer, en fait, peut-être... par moment avant d'être trop fonceuse, trop dans l'action-réaction.
Ce qui était peut-être ta qualité nécessaire au tout début de ton aventure chez Indie, d'ailleurs.
Ouais, je pense. Je pense qu'il en fallait, en effet, au début, pour vite agir et vite mettre les choses en place. Aujourd'hui, en effet, faut bien penser les choses avant de bouleverser toute une équipe et de leur faire changer une manière de faire. Et après, je pense que j'ai rencontré aussi beaucoup de... J'ai été en proximité avec beaucoup d'autres métiers. On parlait des sales ops tout à l'heure, des TAM, mais pas que. En fait, toutes les équipes se sont structurées. On a créé de nouveaux postes et de nouveaux métiers, en fait, on peut le dire, un peu partout dans les équipes. Et ça, c'est une vraie richesse. Ça te fait grandir en fait, au sein d'une boîte où tu as l'impression d'avoir une vision à 360 degrés qui est assez folle, quoi.
Et alors, si le management, c'est le thème sur lequel tu as le plus grandi depuis que tu es chez Indie, j'imagine aussi que les managers qui composent ton équipe, tu les attends un peu au tournant là-dessus. Comment tu fais pour les faire grandir, eux, sur leur qualité de manager?
Alors aujourd'hui, je passe beaucoup de temps en fait, avec mes managers et puis les coachs aussi, sachant que les managers accompagnent les coachs, mais qu'en fait, à la base, finalement, toute cette équipe, Elle n'avait pas forcément d'expérience dans ce domaine. En fait, c'était la promesse du départ que de dire on va construire l'équipe et on va monter tous ensemble. Et du coup, on va grandir dans cette boîte. Et donc, tous, ben, on est un peu en train d'apprendre les uns des autres. Alors, on a mis en place des formations en interne avec des intervenants externes. Donc, il y avait beaucoup d'ateliers pour les managers et les middle managers pour apprendre des réflexes, pour se retrouver dans des situations et du coup, mieux anticiper ces situations. Moi, du coup, je les ai mis... les trois managers ont été aussi coachés par un intervenant externe, Amine Slim.
Salut Amine.
Salut Amine.
Qui est aussi un expert à visio.
Exactement. Qui a fait un super job avec eux en prenant toujours... Enfin, en les sortant de leur quotidien. Et puis, du coup, finalement, en donnant des messages que je pouvais donner, mais d'une toute autre manière, avec un tout autre regard. Et donc, ça a été hyper complémentaire, en fait, de ce que je faisais aussi avec eux. Donc, c'était vraiment top. En étant tout le temps à l'écoute, en fait, de leurs besoins et des situations qu'ils peuvent vivre. Et en prenant le temps avec eux, de les analyser, de les comprendre. En fait, au début, j'étais beaucoup avec eux sur des sujets RH assez faciles. Et petit à petit, en fait, je leur laisse la main, je leur laisse du terrain. Je les regarde, du coup, voir un peu comment ils gèrent la situation. Et c'est comme ça, en fait, en les laissant petit à petit, en revenant et surtout en prenant beaucoup de temps derrière pour regarder un peu ce qui s'est passé et pour leur donner, du coup, les dernières choses qui leur manquent, quoi. Mais oui, ils ont énormément progressé, c'est fou.
Vous en êtes où aujourd'hui chez Indy? C'est quoi pour 2022 vos grands chantiers, vos grands objectifs?
Ouais, c'est le sujet du moment. Il y en a beaucoup. En gros, on a déjà on a deux produits aujourd'hui destinés aux indépendants en France. Donc à la base, on s'adressait aux indépendants qui sont en profession libérale, donc soumis à l'impôt sur le revenu. Ça peut être, je te disais tout à l'heure, des kinésithérapeutes, donc tout ce qui est paramédical, médical, mais ça peut être aussi des avocats, des consultants. Et on a créé un deuxième produit qui, lui, est destiné à des indépendants, mais qui ont monté une structure juridique un peu plus complexe pour des raisons d'optimisation fiscale et donc sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Et là, du coup, ce produit, on le travaille de plus en plus pour avoir... pour toucher en fait de plus en plus d'indépendants. On a très très envie en fait de pouvoir ouvrir un marché adressable de plus en plus important en France et du coup ça a un potentiel de 10 millions de cibles, donc c'est plutôt sympa comme terrain de jeu. On a vraiment de quoi faire encore en France, et en parallèle on a ouvert un produit aux États-Unis aussi où là on propose une offre aux freelance.
Ok, pour les freelance aux US, et ça vous l'avez lancé depuis la France?
Ouais, on lance depuis la France.
Ok. Donc, c'est aussi dans ton équipe que commercialement, on attaque le marché des freelances?
Là, okay. Pour le coup, c'est Paola chez nous qui a monté ça en transverse. Donc, c'est une équipe à part. Elle s'est entourée de personnes à la fois fortes commercialement, sur le support client, mais aussi en ops, en produit, en dev. Enfin, voilà, elle a toute sa petite équipe à elle. Et du coup, elle lance ce produit là, en ce moment, sur la partie US.
Ça a l'air passionnant, son job. Et toi, alors, Gaël Morisson, c'est quoi tes grands chantiers et objectifs de 2022 en tant que VP Sales?
C'est de continuer, en fait, à montrer qu'on est capable de vendre autant et sur la durée, que le modèle se vérifie, que... On a plein de petits chantiers en interne, mais qui sont mis bout à bout, représentent un énorme chantier en 2022. On essaye de toucher plus de cibles, et c'est des prospects qui peuvent se comporter de manière totalement différente, dont l'approche est totalement différente. Et donc, je te parlais tout à l'heure de mission R&D qu'on a en permanence, c'est qu'on essaye de sortir de ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui pour aller chercher les autres. Et ça, c'est une quête de tous les instants. On a plein de process qu'on tente en parallèle, plein de stratégie de vente différente aussi. Je te disais tout à l'heure, jamais se conforter dans ce qu'on sait faire, mais toujours aussi réussir à se renouveler. Aujourd'hui, on essaye de sortir des canaux de prospection qu'on maîtrise pour aller en chercher d'autres. Voilà, on se frotte à plein de chantiers comme ça qui pourraient nous permettre d'avoir une force de frappe super forte en 2022.
Top. Merci beaucoup, Gaëlle, pour ce grand, grand tour de ton actualité et ton expérience au global chez Indy. Pour terminer, trois questions. La première, est-ce que tu saurais nous conseiller une ressource, podcast, livre, ce que tu veux, business?
Alors, je suis en train de lire en ce moment « Oser réussir » de Carol Dweck. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un bouquin en fait qui t'explique que... envie de réussir, en fait, des fois c'est une question de mindset, et du coup assez intéressant l'approche qu'elle a. justement de toute cette partie-là et de voir que parfois on est bloqué mais par nous-mêmes et que ça nous empêche d'avancer alors qu'en fait on est complètement capable de le faire.
Ok, alors je ne connais pas pour répondre à ta question, mais maintenant je connais. Exercice inverse, est-ce que tu saurais nous conseiller quelque chose qui n'a rien à voir avec le business ? Un livre, un film, une série ?
Bah, du coup, je vais continuer avec mes bouquins, puisque du coup, je suis assez fan hein, en fait, de découvrir de nouveaux auteurs, même si je suis très attachée aux miens, et notamment Bernard Werber pour le côté assez fantastique et ces histoires dans lesquelles il nous entraîne. Je suis assez fan depuis très longtemps. Et après, moi, j'ai un auteur auquel je tiens depuis que je suis toute jeune, un philosophe tchèque du nom de Kundera, qui du coup a une vision de la vie qui fait prendre énormément de recul sur les choses hein, et qui nous fait prendre conscience qu'en fait, ce qu'on vit parfois et qu'on pense insurmontable hein, est loin de l'être. Et c'est pas mal.
Et la dernière, à ton avis, je devrais inviter qui la prochaine fois à ce micro ?
Amine Slim. Salut Amine.
Amine Slim, rendez-vous est pris, t'as été survendu, tu peux pas passer à côté. Merci beaucoup, beaucoup Gaëlle, j'ai passé un super moment, j'espère que
merci
vous aussi.
Merci à toi.
Et à très bientôt.
Merci.
Vous venez d'écouter un épisode de Lieutenant. Si ça vous a plu et que vous voulez nous aider, vous pouvez le partager à 3 personnes autour de vous, inscrire vos amis de force au podcast sur leur smartphone et me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un gentil commentaire, c'est ça qui me rendra visible dans les classements. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez m'écrire à younes@avisio.fr et je vous enverrai le lien de l'épisode à sa sortie. Aussi, si vous ou vos équipes voulez être accompagné par l'un des meilleurs managers de la tech pour monter en compétence sur votre métier et apprendre les techniques des meilleures boîtes de la place, Avisio Mentoring est là pour vous à la même adresse. Je suis Younes Elgarty et je vous dis à bientôt.